Bonsoir. Donc, au nom de l'Espace Mondes France, je suis ravie de vous accueillir ici pour cette deuxième conférence dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Poitiers et particulièrement ici avec le laboratoire Migrinter. Merci Jawida Sehili d'avance pour la communication que vous allez faire. Je laisse donc Adelina Miranda présenter la conférencière, et puis j'excuse Anouche Kunt qui a aussi participé à l'organisation de cette programmation qui est absente ce soir. Voilà, bonne conférence.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, une pensée particulière au master. Ils sont quand même nombreux, malgré les froids, comme on disait tout à l'heure. Alors, cette deuxième séance de l'Atelier des savoirs, étudier les migrations internationales et les luttes contre les discriminations. Aujourd'hui, nous avons dans ce cadre l'honneur, le plaisir d'entendre Jawida Sehili, qui est maîtresse de conférences et responsable scientifique de la chaire et du master égalité, inégalité et discrimination. Donc, on est en plein au cœur de notre discussion. Qui est Liettelle de l'Université Lyon 2, Centre Max Weber. Alors, je ne vais pas dire tout ce que tu fais, mais je vais au moins les choses essentielles. Elle est élue au comité des directions de l'AFS, donc l'Association française de sociologie. Elle est surtout responsable depuis cette année du RT2 Migration, Altérité et Internationalisation. Je ne sais pas si tu veux dire un mot aussi sur ces réseaux. C'est quand même un réseau qui est extrêmement important parce que ça fait des années qu'il travaille autour de la question des migrations. Bien sûr, dans une perspective beaucoup plus sociologique, mais aussi en tenant compte des questions d'altérité et les questions de l'internationalisation. Si j'avais à résumer ton parcours, Jawida, je dirais qu'il est au croisement, donc à l'intersection quoi, du travail, la question du travail, du genre et des migrations. Et la question des discriminations, elle a été toujours centrale à l'intérieur de tes travaux depuis ta thèse. Après, je ne sais pas comment tu as l'intention de développer la chose, mais je tenais bien à souligner aussi une chose, la manière dont tu as affronté toujours la question du genre. Elle a été innovatrice du départ parce que tu as travaillé aussi sur les hommes. Et en général, on a la tendance à réduire la question du genre aux hommes. Et je pense qu'effectivement, ça t'amène aussi à une vision de l'intersectionnalité de laquelle tu vas parler aujourd'hui. Surtout, effectivement, cette histoire du mythe de l'égalité à la honte de l'intersectionnalité. Est-ce que l'intersectionnalité, c'est une boîte à outils? Est-ce que c'est une méthodologie? Est-ce que c'est un concept? Tu vas nous expliquer tout ça. Merci.
Bien, merci. Vous m'entendez bien? C'est bon le micro? D'accord. Alors, merci aux organisatrices pour cette invitation. Je suis vraiment ravie, hein, notamment l'invitation de l'Espace Mondes France que je découvre et ces programmations vraiment très intéressantes. Merci plus particulier à Adelina Miranda, collègue, amie de longtemps. Merci au public, effectivement, pour votre attention, malgré, somme toute, un horaire relativement tardif. Et le froid. Donc voilà, j'ai bien noté. Ma conférence s'intitule « Le mythe de l'égalité à l'aune de l'intersectionnalité ». En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est une démonstration. Je ne vais pas amorcer mes propos avec la question de l'intersectionnalité. Je vais tenter de montrer comment, dans mes différentes recherches, j'en suis venue finalement à l'idée que l'intersectionnalité était un outil extrêmement opérant pour comprendre un certain nombre de choses, notamment autour des questions de discrimination. Alors, afin de respecter le résumé de mon intervention, qui a été très bien placé justement dans la programmation aussi, je vais introduire mon propos par la question que pose Nassira Guenif, Souilama. Quel prix faut-il payer pour trouver sa place ? En fait, c'est assez étonnamment ma question de départ. Selon l'imagerie ambiante, selon le sens commun, l'intégration des populations issues d'ailleurs, etc., est censée se produire d'abord par les femmes, plus spécifiquement par les filles de migrants, migrantes, qui seraient naturellement portées à se distancer des traditions familiales. Pour autant, les études en sociologie notamment montrent qu'en réalité, l'intégration par cette supposée recherche d'émancipation, ou plutôt pour le dire encore différemment, par cette forme d'assimilation à d'autres comportements culturels, est ressentie par la plupart des personnes sur lesquelles on travaille, avec lesquelles on fait des entretiens, etc. C'est particulièrement ressenti en réalité comme une assignation, comme une contrainte plus qu'une libération. À partir de ce constat, ma démonstration vise à montrer, et je vais mobiliser plusieurs terrains de recherche, cherche à montrer en fait que l'intégration dont il est question ici est strictement normative. Elle est normée. Elle suppose une certaine compétence. Et je vais bien insister sur le terme compétence parce que vous allez voir que c'est vraiment ce qui est à l'origine de ma réflexion, la notion de compétence. Donc c'est pas dans le titre, mais en réalité, ça se construit autour de cette notion de compétence. Compétence à se conformer et conformité qui passe par une certaine réussite méritocratique. Ensuite, je voudrais démontrer qu'en transformant les facteurs d'exclusion et de discrimination en facteurs d'inclusion, je vais m'expliquer à chaque fois sur ce que j'entends par là, la promotion de la mixité, si on parle de la question du genre, promouvoir la mixité. Alors, mixité, c'est un terme qu'on utilise plus spécifiquement pour les contextes professionnels, les entreprises, le monde du travail, ou encore la promotion de la parité, parité qu'on utilise plutôt dans le champ politique. Promotion de la mixité, de la parité, et plus génériquement, la promotion de la diversité. Je pense que vous en avez tous entendu parler, au moins une fois, ou deux, ou trois. La promotion de la diversité porte bien l'idée d'un mythe, que j'ai appelé un mythe d'une égalité sous condition de performance à la différence. Condition de performance au sens à la fois que cette égalité, elle est conditionnée par un principe de rentabilité économique. L'égalité doit être rentable, en fait, économiquement. Et deuxième élément, cette égalité, elle exige une mise en scène d'une singularité propre, une singularité personnelle, une singularité individuelle. Et je vais m'expliquer à chaque fois. Donc voilà, ça c'est un peu le plan que je voudrais développer. Je veux essayer de montrer que mon hypothèse autour de la promotion de la diversité, c'est de montrer que c'est d'abord et avant tout un concept libéral, qui se distingue véritablement du concept d'égalité. Un concept libéral qui, en plus, se situe dans une certaine continuité de l'idéologie patriarcale, l'idéologie coloniale, au sens où il faut l'entendre comme une idéologie qui hiérarchise les individus en imposant une reconnaissance qui va être liée à leur différence. Exactement ce qu'on peut trouver dans un modèle patriarcal ou dans le modèle colonial. On va hiérarchiser en fonction d'une différence. On reconnaît une différence. Et cet état va finalement produire un effet pervers parce que, pour le coup, ça va masquer la pratique et le vécu des discriminations qui sont réellement, vécues et induites par le genre, l'ethnie, la race. On peut, moi, j'ai plutôt tendance, je le dis souvent, mais à utiliser le concept de race, en mettre de guillemets, mais il y a des polémiques là-dessus, donc je parlerai d'ethnie, de race, on pourra en discuter, et la condition économique supposée des individus, pour le dire plus simplement, la question de la classe, en fait. Mais là aussi, il y a un certain nombre de discussions qui font qu'on n'est pas complètement... sur des définitions qui sont, ou l'utilisation de concepts qui sont définis, point final, sans les discuter. Donc j'espère démontrer, à travers mon propos, que l'approche intersectionnelle, elle est plus qu'intéressante, elle est heuristique à la compréhension de la division internationale du travail et de la hiérarchisation qu'elle produit. Donc, pour reprendre mon plan, ma partie 1, mon point de départ de ma démonstration va trouver sa source dans mes premiers travaux de recherche qui ont porté sur, alors je pense que ça va vous paraître très très éloigné même du résumé, etc., mais c'est mon point de départ, donc je suis obligée de partir de là, qui ont porté dans un premier temps sur les nouvelles formes d'évaluation du travail. Il faut dire que je suis d'abord de formation sociologue du travail, et que mes premiers travaux ont porté sur le monde professionnel, le monde de l'entreprise. Dans ce monde professionnel, dans ce monde de l'entreprise, au moment de ma thèse notamment, comme l'a rappelé Adelina, j'arrive à un moment où dans l'entreprise, on passe de ce qui était appelé un modèle de la compétence, pardon, du modèle de la qualification, au modèle de la compétence. On va valoriser de nouveaux savoirs, en fait. On transforme les façons, les formes, les dispositifs d'évaluation des personnels des entreprises. Ces nouvelles formes d'évaluation, elles vont avoir tendance à valoriser des compétences qui sont liées à des savoir-être, des savoirs comportementaux, des capacités individuelles à pouvoir s'adapter, à pouvoir changer, etc., modifier ses comportements. Et du coup, ces nouvelles formes vont déprécier les qualifications, le savoir-faire, à savoir le titre, le diplôme, l'expérience professionnelle, etc. Est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas du tout, ce glissement du modèle de la qualification au modèle de la compétence? C'est juste pour savoir si je développe ou... ça vous parle quand même. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'aux années 1980, c'est le modèle de la qualification qui prime. C'est le modèle de la qualification qui va être mobilisé pour produire des classifications professionnelles. Des classifications professionnelles qui visent justement à classifier les personnes travaillant dans l'entreprise en fonction, là encore, de leur diplôme, de leur expérience, etc. D'accord ? On aboutit à des grilles professionnelles, à des classifications professionnelles, auxquelles sont directement articulées des grilles salariales. D'accord ? En fonction de votre titre, de votre expérience, finalement, vous vous retrouvez positionné à tel endroit, avec tel salaire. Et tout ça, ça se construit. C'est déconstruit. Ça se construit par des acteurs qui vont construire ces classifications professionnelles. Donc on va avoir des grilles hiérarchiques, même souvent très liées à des organigrammes. Vous savez, ces organigrammes qu'on peut trouver assez facilement sur les sites des entreprises. En réalité, on les trouve de moins en moins facilement. Je ne sais pas si pour ceux qui travaillent un peu sur ces questions, même les organigrammes ont tendance à avoir disparu des entreprises, avec la disparition des qualifications. Mais jusqu'alors, les grilles étaient associées à des organigrammes qui nous permettaient de voir, même de manière très visible, finalement, comment étaient structurées les échelles de pouvoir dans l'entreprise. Par exemple, on pouvait avoir des échelles qui reprenaient les nomenclatures cadres, employés, ouvriers, ou encore dans les espaces publics où on avait encadrement, maîtrise, exécution, etc., etc. À partir des années 1980, et avec l'essor du chômage massif lié au choc pétrolier, apparaît ce qui va être défini comme étant des contraintes, de nouvelles contraintes économiques, qui rendent a priori les organisations du travail plus complexes, plus instables, moins lisibles, etc. On a l'idée que finalement, le monde du travail, avec ses grilles de classification, etc., est trop lourd, trop pesant, trop rigide, et qu'il faut absolument assouplir tout ça, et donc se débarrasser d'une certaine manière du modèle de la qualification pour adopter le modèle de la compétence. Et c'est ce modèle qui va progressivement apparaître comme une réponse plutôt adaptée pour qu'une organisation du travail soit plus souple et réactive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le modèle de la compétence, je définirai vraiment ce qu'on appelle la compétence, mais le modèle de la compétence, il arrive sous prétexte d'une déstabilisation économique. D'accord ? Il y a une crise, il faut absolument rendre les organisations de travail plus flexibles, plus souples, etc. Et quand on parle des organisations de travail, en réalité, ça va induire aussi l'idée qu'il faut rendre les personnels, les salariés, hommes et femmes, qui travaillent dans les entreprises, plus souples également, plus adaptables, plus flexibles, etc. C'est ça que ça veut dire. Et si on reste avec l'idée de qualification, le diplôme ou l'ancienneté, ou l'expérience, on voit bien que c'est difficile de rendre les choses plus souples. Donc il faut se débarrasser d'une certaine manière de ces lourdeurs, de ces rigidités, pour mettre en place des modèles qui vont évaluer les individus en fonction de critères beaucoup plus flous, donc plus flexibles. Et l'idée que ça se met en place sous couvert d'une déstabilisation économique, c'est important aussi parce que c'est l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une crise, il faut absolument adopter des modèles plus souples, et donc parce qu'il faut rendre il y a du travail, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de chômage, et donc il faut absolument accepter cette idée d'introduire plus de flexibilité, plus de souplesse, etc. Donc, quand je dis ça, ça veut simplement dire que la logique compétence, elle va s'imposer dans le monde du travail, presque de manière sans avoir été vraiment discutée, en fait. Sans avoir été sans résistance, véritablement. Elle va même s'imposer aux organisations syndicales qui vont la subir un peu comme ça, sans trop comprendre ce qui se passe, et qui ne vont pas véritablement résister à l'invasion de ce modèle. Ou, en tout cas, les organisations syndicales vont avoir peu de moyens de le faire, parce qu'elles s'imposent de manière assez brutale, quasiment sur quelques années. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ce glissement, cette transformation se fait quasiment en 5 ans. Ce qui est assez énorme, parce que c'est une entreprise publique qui fonctionnait jusqu'alors véritablement sur le modèle de la qualification, reconnaissance du diplôme, reconnaissance de l'ancienneté. Et tout ça, ça explose. Ça explose pour l'idée de compétence. Dans ce nouveau modèle de la compétence, le travail ne va plus résider dans l'obéissance aux consignes de travail, avec un profil de poste et une fonction bien définie. D'accord ? On occupe un poste, on sait à peu près ce qu'on doit faire dans ce poste, il y a un profil de poste avec des fonctions qui sont clairement définies et à la limite qui bougent très peu. En fait, dans le modèle de la compétence, tout ça explose et la compétence va résider dans la capacité des individus, hommes et femmes de l'entreprise, à mobiliser leur propre autonomie et on voit apparaître, je ne sais pas si ça vous parle aussi, dans votre expérience peut-être professionnelle, etc., on voit apparaître de plus en plus ces idées de il faut que les salariés, hommes et femmes, aient plus d'autonomie. On voit apparaître l'idée aussi qu'ils doivent démontrer un esprit de responsabilité, montrer une capacité de réactivité, une capacité à bouger, etc., etc. D'accord ? On renvoie aux individus une injonction de souplesse qui est censée se traduire par des organisations de travail plus souples également. Donc c'est, pour l'entreprise, c'est vraiment un dispositif opératoire en termes de gestion, à la fois de ses organisations, mais de ses gestion de ses personnels, hommes et femmes. Surtout parce que justement, avec la notion de compétence, on va insister sur la contribution personnelle des salariés à la performance des entreprises. Et ce n'est pas tabou. Tout ce que je vous raconte, c'est vraiment issu de travaux de recherche longs sur des documents, des archives, des comités de cotation, etc., que sur une recherche longitudinale qui a duré pour moi 8 ans, où j'ai étudié spécifiquement tous ces aspects. Là, je suis obligée de résumer, mais c'est vraiment issu de travaux qui montrent qu'il n'y a pas de gêne, finalement, à dire que les capacités individuelles, enfin les capacités des individus doivent être mobilisées pour accroître la performance des entreprises dans un contexte de crise, etc. Donc, l'idée, c'est que les individus doivent véritablement conformer leur comportement à des nouvelles normes d'action, des nouvelles façons d'être dans le travail, des nouvelles relations au travail. En fait, c'est l'idée, mais bon, ça je ne le développe pas ici, mais c'est une de mes recherches, c'est vraiment que l'idée, finalement, le travail va muter et le travail va envahir, finalement, tous les espaces. Des espaces au domicile, par exemple, hein, puisque les frontières vont s'estomper, et notamment via tous ces nouveaux outils, téléphones, etc., qui vont contribuer aussi à diffuser cette logique compétence. Hein, il faut être le plus compétent possible, le plus réactif possible. Réactif possible, ça veut dire ça. Ça veut dire, à la limite, avoir lu ses mails avant même d'arriver au boulot. Donc, avoir lu ses mails dans les transports ou au domicile, etc. etc. Donc, ce glissement du modèle de la qualification à celui de la compétence, il s'est opéré en France, donc dans les années 80, suite à une diffusion aussi à l'instar des États-Unis, qui va largement contribuer à la mise en place donc de politiques, de pratiques d'individualisation. Par exemple, on va voir se développer à ce moment-là l'idée de l'individualisation des salaires, qui jusqu'alors apparaissait comme assez inégalitaire. Hein. L'individualisation des salaires, ça allait un peu à l'encontre de l'idée que dans le monde du travail, finalement, il devait y avoir une espèce d'égalité qui devait se faire en fonction des catégories ouvrières, cadres, etc. etc. Hein, plus liées, là encore, au titre et à l'ancienneté, et moins liées aux compétences des personnes. Là, ça s'inverse. Il y a l'idée que, au fond, tout peut être individualisé et qu'on peut occuper un même emploi, un même travail, avoir même ancienneté, etc. Mais pour autant, il y a cette espèce d'idée que si on ne s'investit pas de la même manière, si on ne passe pas plus de temps, si on ne se distingue pas de manière identique par rapport à ses compétences, il est parfaitement envisageable qu'on ait des salaires qui ne soient pas les mêmes. Hein, il y a une forme d'individualisation des salaires. Donc ça va vraiment minimiser la place des collectifs du travail pour aboutir véritablement à une revalorisation de la personne aux dépens de ces collectifs de travail, aux dépens finalement d'une certaine notion d'égalité ou encore de communauté de destin. Bon, beaucoup de travaux sur le monde ouvrier ont montré qu'il y avait cette idée partagée, les identités au travail, notamment avec Renaud Saint-Soulieu, peut-être que vous connaissez, hein, qui ont beaucoup insisté. Renaud Saint-Soulieu, c'est un sociologue du travail, qui ont beaucoup insisté sur l'idée que finalement, on avait autrefois plutôt des communautés de destin, on imaginait plutôt des parcours des trajectoires de professionnels, etc., relativement identiques jusqu'à la retraite, dans une même entreprise, etc., etc. Ce qui faisait que même dans certaines entreprises, on n'était jamais complètement à la retraite. D'ailleurs, on passait d'actif à inactif, mais toujours salarié, enfin, toujours membre ou agent de l'entreprise. Tout ça explose. Tout ça explose et remet véritablement en question la question de la progression professionnelle, remet en question la question même la place des organisations syndicales. J'insiste quand même là-dessus parce que ça déconstruit tout ça. Et ça impose une logique qualifiante par la compétence à être un individu flexi-adaptable, flexi-mobile, flexi-polyvalent. D'accord ? Il y a même l'idée qu'au fond, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les individus ne doivent plus s'en tenir à maîtriser une fonction, un segment de production, etc. Les individus doivent être polyvalents. Polyvalent, ça veut dire qu'ils doivent élargir constamment leurs compétences. Et des compétences d'hier, l'année précédente, par exemple, peuvent dans le cadre d'une réorganisation du travail, une nouvelle commande, enfin une mission, peuvent complètement apparaître comme plus utiles et il faut développer de nouvelles compétences. Ça s'accompagne, je vais très vite, je suis désolée, mais en réalité, dans un contexte plus général, ça s'accompagne de toutes les nouvelles politiques en matière de formation professionnelle. Il va falloir, pour élargir les compétences, que les individus, hommes et femmes, se forment tout au long de leur vie. Et c'est comme ça qu'on a appelé d'ailleurs la formation. Hein, c'est se former tout au long de leur vie. Se former tout au long de leur vie. Il y a cette idée séduisante que c'est se former pour acquérir à chaque fois des nouvelles connaissances qui vont me permettre de s'épanouir, etc. Mais il y a en réalité l'idée qu'il faut se former tout au long de la vie parce que l'organisation va exiger des individus qu'ils maîtrisent différentes compétences, différents segments, etc., pour pouvoir garder leur emploi. Il y a la question de la flexibilité, la responsabilité, flexibilité, etc. C'est cette idée que, par rapport à ces capacités de s'adapter, de s'auto-former, de se former continuellement, etc., en échange, compte tenu du contexte de crise, etc., les personnes vont pouvoir garder leur emploi ou vont pouvoir en récupérer un. Ce n'est pas leur travail, là. Pour le coup, c'est vraiment la question de garder son emploi. Donc, il y a une espèce de donnant-donnant, mais qui exige de la part des individus, finalement, de tout le temps se donner, en réalité. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu analyser, c'est que ça va modifier véritablement les relations de travail, des relations de travail qui sont présentées comme n'étant plus, il n'y a plus d'obligation que ces relations de travail s'inscrivent dans le temps. Au contraire, quand je dis ça, c'est que on avait un modèle de carrière professionnelle qui se passait très souvent dans une même entreprise. Voilà, on rentrait dans une entreprise, on faisait carrière, on évoluait, etc. Et puis on partait. Et d'ailleurs, l'ancienneté, je le disais tout à l'heure, était un élément très valorisé. Dans ce modèle de compétence, c'est l'inverse. Ce qui va se passer, c'est que c'est même plutôt mal vu. C'est même plutôt mal vu de rester, d'être resté longtemps dans une entreprise. Quand vous faites des entretiens de recrutement, on va vous demander mais comment ça se fait, vous n'avez pas eu envie de bouger, etc. Il y a vraiment un renversement qui se fait, mais en à peine quelques années, qui va être de dire non, là, pour le coup, ce qui est valorisant, c'est un individu qui a plutôt envie de bouger, qui a plutôt envie de changer d'entreprise, qui change régulièrement de boîte, etc. C'est l'idée que finalement, ce qui devient même un peu problématique pour les individus ou pour l'entreprise, c'est que il faut pas que les individus s'attachent. Il faut pas que les individus s'attachent à l'entreprise. Et la même chose, c'est l'idée que si les individus s'attachent à l'entreprise, d'une certaine manière, l'entreprise se doit de s'attacher à eux, donc de leur proposer des conditions de travail, meilleures conditions de travail, des salaires, des promotions, etc. Donc là, pour le coup, ça contraint finalement de s'attacher à elle et à eux. Donc on a une nouvelle légitimation du savoir mesurée par les compétences et voilà, toutes les capacités des individus doivent leur permettre d'une certaine manière de s'épanouir pleinement. On tend ici dans la relation de travail, on tend donc ici à aller vers une conception psychologique, relationnelle de l'individu au travail. On va finalement inciter une relation de travail qui va se faire plus sur une relation psychologique, un épanouissement personnel, je disais, un développement personnel. Et on va avoir dans le même temps, justement, de plus en plus, un développement de tout ce qui s'appelle les pratiques de coaching, par exemple. Je n'ai pas le temps de les développer aussi, mais c'est pareil, c'est des pratiques de coaching qui vont avoir comme mission, finalement, de d'éduquer les salariés ou les hommes, les femmes à justement donner de soi, de sa psychologie, de sa personnalité dans le travail. Et tout se passe comme s'il y avait une adéquation quasiment systématique entre le développement individuel, son propre développement individuel, et les besoins de l'organisation. Ce qui est faux, on le sait bien. Ce qui est faux. Ça veut dire qu'on renvoie d'une certaine manière ici, par la logique compétence, à l'idée que les individus doivent d'abord principalement se connaître, s'accepter, et s'accepter dans ses différences. J'en viens véritablement à mon sujet. Mais ça, voilà, je suis obligée de passer par là pour bien comprendre. S'accepter dans ses différences, s'accepter dans sa diversité. Et pour justement s'améliorer, c'est-à-dire pour être plus performant, plus efficace, et donc même pour être plus heureux. C'est des termes qu'on voit assez souvent apparaître dans le monde du travail. On va parler de bien-être au travail, on va parler du bonheur au travail. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, hein. Il y a un film qui a fait beaucoup parler de lui, Le bonheur au travail, je vous invite à le voir. Il y a des choses assez intéressantes, mais assez aberrantes, finalement, de ce point de vue-là, dans ce qui est dit. Mais c'est le bonheur au travail, on réitère cette idée. J'en viens à mon deuxième point. Donc, on en revient au concept de diversité. Pareil, qui s'est d'abord développé aux États-Unis au cours des années 90 et qui va connaître un succès assez significatif aujourd'hui en Europe. La notion de diversité, dans un premier temps, elle va se développer. Donc, elle est en lien avec ce développement de la compétence. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais c'est en lien avec la compétence. La notion de diversité, là aussi, quand elle se présente, quand elle va se développer, elle n'est pas directement reliée à la question de l'égalité. Elle n'est pas reliée à la question de l'égalité, en fait, hein. Elle est reliée, là aussi, à la question de ce qui va être appelé la raison d'affaires, le business case, c'est-à-dire à la question de la rentabilité, à la performance de l'entreprise. L'argument principal va être qu'une main-d'œuvre diversifiée, femmes, hommes, blancs, noirs, jeunes, vieux, handicapés, normal, je mets des guillemets, etc., augmente la performance de l'organisation en améliorant le moral, la motivation, la solidarité, en favorisant l'exploitation de nouveaux savoirs, savoir-faire, culturels, etc. Et donc, tout ça va augmenter la compétitivité. Donc, moi, dans la suite de mes travaux, je me suis demandé ce que ce glissement, donc le modèle de la qualification au modèle de la compétence et donc à la promotion des diversités, hein, c'est bien ce glissement-là dont il s'agit, diversité personnelle, hein, encore une fois, ce que ce glissement pouvait avoir comme impact sur l'égalité homme-femme. Voilà, donc de la question du travail, j'en viens à la question du genre, homme-femme, en fait, hein. En fait, en ce qui concerne plus spécifiquement les femmes, le concept de diversité va défendre l'idée que la mixité, la parité, ne peut avoir qu'une bonne influence sur la performance des entreprises. C'est aussi comme ça, dans un premier temps, que c'est présenté. Loin d'être nié, l'argumentation économique de la féminisation, donc féminiser de plus en plus les bastions masculins, ou là où il y a plus d'hommes, féminiser de plus en plus les postes à responsabilité, etc. Ça relève de la raison capitale. Ça peut accroître la performance. C'est vraiment du business case. C'est tout ça qui va entourer la diffusion de cette idée qu'il faut féminiser. Il faut féminiser, il faut inciter au recrutement des femmes. Et donc, ça relève plus, en réalité, d'une gestion économique, et c'est explicitement dit, que de la lutte contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Il y a ce glissement-là qui s'opère aussi. On n'est plus sur il faut respecter la loi, etc., et mettre en place des dispositifs en respectant justement les lois qui existent, Rudy, etc. Il faut finalement se dire que féminiser, recruter des femmes, les mettre dans des postes importants, etc., ça rapporte. Ça rapporte. Et ça rapporte pourquoi ? Enfin, ça rapporte parce qu'il y a cette idée qu'elles ont des compétences spécifiques. Voilà ce que ça développe aussi. Les femmes auraient des compétences spécifiques différentes de celle des hommes. On voit réapparaître dans les discours cette idée que les femmes et les hommes, pour le coup, sont différents. Donc, sur les problématiques de genre, on voit bien que ça pose question. Pendant longtemps, on a travaillé l'idée que les différences entre les hommes et les femmes relevaient de socialisation. relevé d'un construit social, etc. Et puis là, tout d'un coup, avec tous ces glissements, il y a cette idée qui va apparaître comme très séduisante. Il y a cette idée qu'au fond, non, il y a des différences, il y a des spécificités, il y a des compétences différentes entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas la même chose. Et ces compétences, évidemment, on va les ramener à des éléments, on va mobiliser à nouveau des aspects naturalisants, des aspects essentialistes. Il y a une vague essentialisme qui réapparaît, qui pose un certain nombre de questions, là encore, sur la question de l'égalité, pour le coup. Hein, parce que si on admet le retour des différences, si on se dit que ces différences, finalement, c'est pas si mal, parce que comme il y a des compétences spécifiques entre les hommes et les femmes, c'est bon d'avoir ces compétences différentes au sein d'une entreprise, au sein d'un milieu de travail, etc. On reconnaît que c'est donc que ça, on reconnaît. On présuppose que ça accroît la performance de l'entreprise, etc. Donc c'est encore une fois très très séduisant. Mais en même temps, vous voyez le danger que ça porte, puisque il va falloir recommencer le travail. Il va falloir recommencer, alors là, sur la question du genre, il y a, à mon sens, hein, c'est une de mes hypothèses, on a en réalité un vrai retour en arrière. Un vrai retour en arrière dans les argumentaires. Et un retour en arrière qui va être porté, et qui va être porté par un certain nombre de politiques également. Donc, c'est séduisant parce que ça semble porteur d'opportunités pour les femmes, hein, dans la mesure où on va accepter leurs différences. Il faut se poser la question de quelle différence. Et puis, ça permet d'éviter de toujours se prévaloir du cadre législatif. Hein. Là aussi, on va dire que le droit, c'est assez... ça cadre, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux d'avoir à respecter un certain nombre d'injonctions, de droits, etc. Mieux vaut voir la féminisation sous l'angle de la diversité, sous l'angle des différences de performance pour les hommes et les femmes, etc. Donc on s'éloigne de l'impératif social de l'égalité des chances, dans un premier temps. Ça disparaît. Ça disparaît dans les politiques publiques et managériales, etc. Le principe même égalitariste devient relativement secondaire. C'est plus la priorité. Ce n'est plus la priorité. En conséquence, l'introduction des femmes dans des métiers masculins deviendrait plutôt un levier pour améliorer la compétitivité des entreprises. Et c'est ce que va dire, par exemple, Nicole Hamelin en 2004, au moment où tout ça se développe, Nicole Hamelin, qui est ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle, qui va dire qu'en fait, il faut valoriser les compétences, notamment, quand elle dit ça, elle dit bien finalement qu'il y a des différences. Pour rappel, c'est ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle. Elle dit notamment donc les compétences, celles des femmes, leur expérience, leur capacité d'innovation, ainsi que la richesse de leurs différences. Les compétences féminines sont apparentées, dans tous les discours politiques, etc., et les dispositifs managériaux, vont être apparentées à un vrai gisement, à une valeur rajoutée, à un plus, à ne pas négliger, je cite à nouveau, Nicolas Hamelin, ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle en 2004, mais en réalité, quand on regarde les différents textes jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas tellement de différence. Les compétences féminines sont apparentées à un gisement à ne pas négliger, tant le travail des femmes représentant un moyen parmi d'autres d'accompagner ces mutations. Toute politique en faveur des femmes n'est pas seulement une affaire de justice, mais un outil de performance économique. D'accord ? Ça, c'est clairement dit. À charge donc pour les entreprises à tout mettre en œuvre afin d'utiliser au moins le plus possible ce potentiel qui aurait été a priori jusqu'à maintenant sous-utilisé des femmes. Hein. Tout est prétexte à féminisation, quitte parfois à valoriser, à promouvoir paradoxalement, donc je vous le disais tout à l'heure, des différences indéniablement naturelles sous l'angle des apports divergents en matière de compétitivité. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités de compétitivité économique entre les hommes et les femmes. Et on va voir se développer vraiment une masse importante d'auteurs de la gestion, des rapports, beaucoup de rapports, d'études. C'est souvent privé, à la décharge quand même des chercheurs du public que nous sommes, souvent privés, notamment anglo-saxons, qui vont insister sur le fait que la mixité au niveau des cadres, notamment, va contribuer à enrichir les styles de management à un moment donné où les entreprises cherchent, je fais le lien avec ce que je disais précédemment, à être le plus souple, le plus flexible possible, etc. En réalité, d'autres recherches, plus publiques là notamment, vont plutôt montrer qu'il n'y a pas véritablement de recherche pour l'instant empirique, importante, qui prouve qu'il y a un lien entre diversité sexuelle et performance. Et en réalité, quand on regarde concrètement, on n'a pas véritablement de changement matériel en matière d'égalité homme-femme. Hein. Les femmes restent très minoritaires sur les vrais postes de responsabilité. Il y a des blocages qui demeurent, voire s'amplifient, notamment en ce qui concerne les écarts de salaire. Et ça, vraiment, on peut le voir, il prouvait statistiquement, hein, l'application des modifications des lois sur l'égalité professionnelle, celle de la parité, etc., sont partiellement respectées. Hein, la plupart des entreprises, notamment, ou même au niveau politique, sont hors la loi sur ces questions. Mais on a cette espèce de décalage entre un discours, des représentations, où on a l'impression que les femmes n'ont plus que jamais, finalement, à cultiver leur spécificité, en apportant des qualités différentes et complémentaires de celles des hommes. Il suffit qu'elles le comprennent. Voilà, nous les femmes, voilà, il suffit qu'on comprenne que finalement, on aurait tout intérêt à justifier d'une différence pour pouvoir être reconnue. Parce que justement, alors par exemple, dans ce que j'ai pu observer, on va attribuer aux femmes des valeurs plus humaines. Le nombre de fois de textes où j'ai retrouvé ça, les femmes se saisissent mieux de la question humaine, des valeurs. C'est vraiment, il y a l'idée que l'humanisme, l'humanité, c'est des valeurs humaines. Et donc, on aurait intérêt à les mettre sur certains postes stratégiques parce que les femmes, elles ont tendance à agir de manière, je cite, hein, là je vous donne des citations, de manière plus collégiale que les hommes. Elles ont une préférence pour un modèle de gestion plus démocratique par rapport aux hommes, un modèle de gestion moins conflictuel. Vous voyez, on revoit bien là des relents quand même de spécificités dites féminines qui réapparaissent. Pour le dire autrement, elles sont plus dociles et plus douces et plus, voilà, plus à même de... Alors, pour poursuivre, juste quand même préciser que j'ai... Là, j'ai travaillé beaucoup avec Irène Jonas sur un corpus très, très large d'ouvrages, de magazines, de rapports, etc. Et jusqu'à des best-sellers qu'on s'est forcé de lire, comme « Les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars, pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières, etc. » Pourquoi on s'y intéressait ? Pas pour se faire du mal, mais vraiment parce que, en fait, ce qui nous a frappé, c'est que tous ces ouvrages apparaissaient dans ce même cadre, dans ce même contexte de développement, et étaient des best-sellers au sens propre du terme. Ils se vendaient par millions d'exemplaires, donc ça nous a interpellés. Qui lit ça ? Bon, nous, du coup, mais pour les étudier aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça se développe à ce moment-là, que ça a ce tel succès et que ça réitère des différences et qui essentialisent finalement les différences. Et ce mythe, aujourd'hui encore, il n'est plus que d'actualité. Je vous invite à regarder les magazines, psychologie, etc., où on a des nombreux ouvrages, des magazines, etc., qui nous disent de manière... Là, sous la plume, je ne résiste pas à vous donner quelques... La plume d'Hélène Villers, qui a écrit « Les hommes, les femmes, etc. », best-seller, où elle dit « Les valeurs masculines ayant fait leur temps... » Bon, je ne savais pas qu'on était passé à autre chose, mais le masculin, hein, dans le sens vraiment, pas des hommes, mais masculine, le moment est venu, les valeurs féminines de partage, d'attention aux autres et de solidarité avaient tout intérêt à être appelées à la rescousse. Il y a cette idée qu'en plus de ça, ça va nous sauver de la crise. En plus, hein, ça va nous sauver du conflit, ça va nous sauver de la crise. Encore là, sous la plume d'un ouvrage qu'a fait aussi, alors c'est très amusant parce que après c'est des choses qui sont à étudier, un ouvrage qui a été coécrit par Annie Bacht et sa fille. Donc c'est souvent des histoires de famille en plus, hein, ces ouvrages. c'est construire l'avenir avec les femmes. Étrangère au modèle masculin, elle change la façon d'exercer le pouvoir et invente un nouveau style plus adapté aux contraintes économiques actuelles. Au poste de responsabilité qu'elles ont réussi à décrocher malgré tous les obstacles, elles recueillent l'estime de tous. Professionnelles, travailleuses, concrètes et créatives, elles démontrent leur capacité à faire évoluer l'avenir professionnel confronté à l'épuisement de ces vieilles logiques de production et de reproduction. Vieilles logiques de production et de reproduction, la plupart des études sur le genre montrent qu'elles ne sont pas si vieilles que ça et elles sont encore très actuelles. Ou encore, on va franchir encore un pas avec Christina Lungi, qui a été aussi, elle, consultante, très mobilisée dans le monde professionnel, consultante. Elle va franchir un pas parce qu'elle va expliquer que l'expérience aussi parentale constitue une école de management unique. Le développement de la capacité à organiser, à déléguer, à écouter, à régler les conflits latents sont toujours évoqués comme des spécificités féminines émanant de leur qualité intrinsèque de mère. Car manager au féminin, c'est aussi ne pas renier son propre sexe. Rester une femme dans sa plénitude, mère et séduisante, pourquoi pas, tout en faisant respecter son statut lié à une compétence. Donc on a vraiment, mais j'ai pris quelques exemples, mais en fait ça se reproduit beaucoup dans toute cette littérature sur laquelle on a travaillé. Donc les femmes managers, notamment une capacité d'écoute, une empathie singulière, etc., etc. Donc et elles auraient développé ces qualités, ces compétences précieuses pour l'organisation par la planification alliée à leur assignation. À la sphère domestique comme à la sphère professionnelle, productive. Ça, c'est un élément aussi intéressant parce que loin d'être une critique justement du fait que la conciliation entre des assignations prises en charge de la famille, etc., et les assignations professionnelles, loin d'apparaître ici comme problématique. On sait pourtant qu'il y a la double journée de travail, etc. Loin d'apparaître comme problématique, ici, c'est super parce qu'en réalité, ça permet aux femmes complètement d'utiliser ces compétences dans le monde professionnel, dans l'entreprise. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je n'ai pas tout à fait fini. À suivre cette pensée, donc, il semble que la question d'égalité, elle s'en trouve pour le coup complètement questionnée. Et d'autant que pour Réjeanne Sénac, notamment en cette période marquée par la crise, il n'y a pas vraiment de consensus sur la définition de ce que doit être l'égalité. En réalité, c'est ça qu'on est en train de voir apparaître. Il n'y a plus de consensus sur ce que doit être l'égalité. Il n'y a plus véritablement de justification publique d'une injonction à l'égalité. Sur les moyens de mettre en œuvre, etc., etc. En fait, on va avoir plutôt cette idée que, au fond, l'éloge de la diversité, c'est une forme d'éloge de la différence, même si elle est s'il y a un retour au naturel qui permet enfin de se débarrasser de cette question d'égalité d'une certaine manière et d'envisager le passage. D'une égalité à la complémentarité. Voilà, c'est à quoi mes travaux m'ont porté au fur et à mesure. Cette idée que l'égalité, ça ne paraît pas véritablement le principe fondamental, de moins en moins fondamental, ce qui peut permettre aux individus de vivre ensemble. Hein, c'est un concept qui est beaucoup réapparu ces derniers temps. Le vivre ensemble, c'est plutôt dans la complémentarité. Au fond... la complémentarité, comme dans une famille, au sens patriarcal du terme. J'en viens au troisième point de ma démonstration, qui vise à montrer que, comme pour les femmes, et ça aussi, c'est suite à mes différents travaux, j'en suis passée à travailler après sur la question migration, mais là, plutôt la question de migration de l'intérieur, comme pour les femmes, les personnes ayant ou étant perçues comme ayant une origine ethnique ou raciale différente vont elles aussi, au fur et à mesure, on va voir apparaître là plus spécifiquement dans les politiques publiques dans un premier temps, vont apparaître elles aussi comme faisant partie d'une diversité. Une diversité qui va être présentée certes comme inégalitaire, mais du même coup non discriminante parce qu'au fond, on reconnaît leurs différences. Et ces différences, on va la qualifier comme pouvant être positive, comme pouvant être une plus-value. Et là aussi, à charge pour eux d'assumer cette différence. On va dire une différence par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quel autre. Ça, on a très très peu de textes, même politiques, etc., qui disent qui est l'autre. Hein. Sur la différence, il y a une différence, mais par rapport à quoi, on ne sait pas. Donc là aussi, on va retrouver les mêmes arguments, l'idée que les individus doivent être autonomes, proactifs, et donc du coup. Les individus issus de la migration, je vais le dire ça comme ça, hein, j'aime pas tout à fait, je trouve que c'est perçu comme étant issus de la migration, etc., mais je vais le dire comme ça pour aller vite. Les individus issus de la migration, finalement, on va aussi, par la promotion de la diversité, les assimiler à des individus qui peuvent être autonomes, proactifs, réactifs. Et puis du coup, on en oublie l'idée même de population en réalité ségrégée, discriminée, etc. C'est vraiment dans ce cadre que s'inscrivent parfaitement, selon moi, les critères de la compétence dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut revaloriser, c'est l'idée qu'il faut revaloriser l'individu dans ses différences, là aussi, aux dépens d'un collectif, une communauté envahissante. Finalement, là aussi, hein, c'est l'idée qu'au fond, on pourrait se débarrasser de cette inégalité qui ne vient pas, qui ne se fait pas. On se débarrasse un peu de ce concept en valorisant cette idée de, au fond... C'est peut-être mieux de penser la complémentarité dans des différences. Ici, plus genrées et ethniques à la fois. Voilà. Hein, si je prends la question de l'intersectionnalité, c'est ça que ça fait transparaître. Hein, genrées, ethniques et puis on va voir aussi après de classe à la fois. Pourtant, en posant que la République, je cite, « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », l'article 1er de la Constitution attribue au principe de la non-discrimination une portée absolue, normalement. Ça veut dire que la diversité des compétences, elle peut être intéressante, mais là, elle est problématique dans la mesure où on associe ces compétences à des notions qui sont fondées sur le genre, le sexe, comme je viens de le démontrer tout à l'heure, comme sur l'origine, la race ou la religion. Il y a une espèce comme ça, de glissement, qui est un peu tendancieux, parce qu'au fond, il apparaît complètement illégal, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que même cette promotion de la diversité, cette valorisation de la diversité, elle est illégale, si on s'en tient à la loi. Mais elle va bien dans le sens de la logique compétence telle que je l'ai dit tout à l'heure, qui tend plutôt à critiquer les droits collectifs, à valoriser les individus dans toutes leurs spécificités, leur sexe, leur culture, même si c'est illégal. Et elle va remettre en cause les normes professionnelles, les normes d'État. C'est aux individus de faire preuve de leur talent. De fait, afficher la diversité de son sexe, de ses origines sociales, ethniques, etc., devient exemplaire. Ça devient exemplaire. C'est ce que présente ça présente un biais plus que tendancieux, en tout cas pour les sociologues. C'est le biais de ce qu'on a appelé Pape Dial, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un ouvrage absolument savoureux sur la condition noire. Qui dit que finalement ça développe l'idée du tokenisme, les tokens, les jetons. Diap y définit le tokenisme comme étant l'inclusion très limitée de minorités visibles dans les cercles de pouvoir afin de donner l'illusion de la diversité. On va introduire des têtes. Je pense que ça vous parle au niveau politique. Hein. On voit apparaître comme ça des têtes et sur lesquelles on va insister sur le fait que c'est des personnes qui viennent de la diversité. On va en faire une promotion. Elles vont elles-mêmes se promouvoir de cette manière. Le toquettisme, en fait, c'est une pratique relativement récente qui se propage dans les partis politiques et qui va se développer, se propager dans un discours du management de la diversité. En focalisant sur la possibilité pour certains d'être considérés comme étant plus talentueux, en leur réservant les quelques places privilégiées dans la diversité, on fait finalement, on masque un système de reproduction statistiquement prouvé. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Voilà. Et on masque des inégalités sociales, on masque des discriminations encore très nettes. Hein, les derniers testings, si vous en avez entendu parler, qui ont été commandés par le gouvernement sur les recrutements, savoir si les recrutements étaient, il y avait des discriminations au niveau du recrutement, les testings qui ont été réalisés sur une grosse échelle par ISM Quorum, ou les derniers testings sur l'accès aux prêts immobiliers, peut-être que vous en avez entendu parler dernièrement, aux prêts immobiliers, aux logements, etc. Tous les testings qui ont été faits ces derniers temps, même ceux commandés par le gouvernement, montrent que les discriminations, elles existent. Bel et bien encore. Donc, mais le toquettisme, il répond ainsi à une logique individualiste, il sous-tend l'idéologie méritocratique. En plus, il permet de justifier un système de hiérarchisation sociale tout en favorisant la reproduction des dominations par ceux-là même qui appartiennent à des groupes discriminés. En fait, pour le dire autrement, le toquettisme en soi un système de domination qui vise à mieux se perpétuer. En effet, les tokens, les individus qui vont être mobilisés qui vont être ces jetons, regroupent en fait des individus qui sont d'ailleurs appelés dans les quartiers populaires souvent par exemple de noirs ou d'arabes de service. Hein, on fait cet amalgame par exemple. Il y a deux cibles qui sont visées par le tokenisme. La première, c'est l'ensemble du groupe dominé. En fait, c'est le fait qu'une seule personne est franchi, il suffit qu'une seule personne ait franchi les frontières entre groupes dans la classification, dans la hiérarchie, pour dire que ça pose l'effet d'un effort individuel. Ça justifie que c'est possible. Il suffit qu'il y ait un effort individuel, que c'est du mérite, que c'est une explication, etc. Et puis le deuxième élément, la seconde cible, c'est que dans le groupe des tokens lui-même, c'est que pour être accepté dans le groupe dominant, le token se doit de reproduire le discours attendu, notamment un discours négatif sur son groupe d'origine. Le token est construit comme une exception issue de l'effort individuel et du mérite particulier. Il est ainsi amené, narcissiquement, à devancer les attentes en termes de discours sur les discriminations, c'est-à-dire à les nier, à les renvoyer à des explications en termes de victimisation et ou de carence d'adaptation. Donc on peut dire que les tokens contribuent aux discriminations tout autant qu'ils et elles les subissent. Je vais demander 5 petites minutes encore. Suite aux émeutes de 2005, et parallèlement aux discours éthico-juridiques, économiques mobilisés pour justement justifier cette promotion de la diversité, on va voir apparaître justement plusieurs initiatives d'insertion par le coaching, par le monitoring ciblé. Il y a plusieurs mesures qui vont être ainsi proposées et qui vont dans un premier temps, c'est pour faire la démonstration, d'abord dans un premier temps cibler particulièrement les jeunes issus des zones urbaines sensibles qui vont être visés. Et on va avoir arrivé un foisonnement d'associations. Moi, j'ai travaillé sur quelques-unes, notamment une association qui s'appelle Nos quartiers ont du talent. Peut-être en avez-vous entendu parler. Donc, il y en a une notamment en Seine-Saint-Denis, qui va proposer principalement de mettre en relation des jeunes diplômés, généralement donc issus de la migration, avec des professionnels, des chefs d'entreprise, des cadres, afin que ces derniers les conseillent sur leur avenir. Ce n'est pas véritablement afin qu'ils permettent de s'insérer, etc., mais c'est des conseils. En fait, on voit se développer cette idée de la nécessité de coacher les individus donc sur leurs capacités personnelles, etc., pour mieux se vendre sur le marché du travail, sans finalement se demander pourquoi, finalement, alors qu'ils sont diplômés, d'une certaine façon, ils se retrouvent sur le banc de touche. En 2008, notamment, Fadela Amara, alors secrétaire d'État à la ville, va même lancer un plan banlieue espoir qui vise à accompagner 45 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans vers l'emploi. Un super budget, etc. Et dans sa déclaration de lancement, Fadela Amara dira très explicitement « Il s'agit d'aider ceux qui n'ont aucune qualification, mais aussi ceux qui ont déjà un diplôme et qui ne trouvent pas d'emploi après avoir effectué les démarches administratives nécessaires. » Enfin, c'est quand même étonnant, on ne trouve pas d'emploi après avoir effectué les démarches administratives nécessaires. Enfin, on ne voit pas trop le lien entre ne pas trouver d'emploi et faire les démarches administratives nécessaires, mais bon. Nous les conduirons grâce à un coaching intensif de 6 mois à un vrai métier. Et d'ajouter, ce qui est nouveau, c'est que nous irons chercher les jeunes là où ils sont, et même dans les cages d'escalier, car nous devons ramener les jeunes les plus désœuvrés vers les circuits de la recherche d'emploi. Les agences nationales pour l'emploi, dans un premier temps les ANPE, ensuite Pôle emploi, hein, ce qui est la fusion entre les ANPE et les ACEDIC, vont s'occuper de ces séances de coaching qui existent encore. Et il faut savoir que quand même, on a aujourd'hui aussi encore des cabinets privés, donc ils sont subventionnés par l'État, comme Attribut Conseil, qui est un cabinet de coaching spécialisé dans la gestion de carrière et des compétences, et qui propose justement d'accompagner des personnes vers l'emploi, notamment les jeunes de 16 à 25 ans, en gommant, donc là j'ai été voir sur leur site, par exemple, leur accent, Ziva, ou racaille pour les entretiens d'embauche ou de carrière à venir. Vous voyez comment on bifurque sur des spécificités personnelles, etc., pour acquérir des compétences qui va effacer tout ça. Donc, pour le dire autrement, on transforme ici un problème politique et social, le problème des discriminations genrées et ethniques, en un problème personnel. On ramène à des défaillances individuelles. Ce qui s'inscrit bien dans le phénomène d'individualisation du travail qui vise à casser les collectifs avec l'idée que chacun est ou doit être responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Il s'agira donc d'offrir à chacun les moyens de développer en prenant des initiatives, en étant évalué en fonction de ses mérites. Là, je cite, et je n'aurais pas complètement terminé, mais ce n'est pas très grave. Si, c'est grave, mais... mais peut-être que dans la discussion, pour laisser le temps, et je reviendrai dessus, mais j'ai envie de citer Eugène Henriquez qui nous dit, qui est un sociologue du travail, qui a beaucoup travaillé sur ces questions aussi, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est non seulement un jugement sur les résultats, mais aussi un retour sur le premier point, un jugement sur la personnalité. C'est la grande perversion de la psychologisation. Non seulement c'est l'individu qui est jugé sur son travail, et en même temps, il est jugé sur sa personnalité. Si quelqu'un fait une erreur, il est incompétent. Les individus se retrouvent ainsi toujours dans l'épreuve et sont sous pression permanente. La personne mise au chômage devra en chercher la cause dans ses propres difficultés, dans son histoire, dans ses failles et incomplétudes. Ce qui est vrai pour certains devient une explication généralisée à tous dans la dénégation de facteurs structurels. On dénie, en fait, on ne travaille plus sur les facteurs structurels, économiques, financiers, géopolitiques, et pouvant même se transformer à la suite en jugement dépréciatif et persécutoire sur les personnes. Là, j'en appelle à tous les travaux qui ont été développés autour, par exemple, du harcèlement, hein, harcèlement moral notamment, etc. Voilà. Je termine en disant que sur mon dernier point conclusif, c'est cette idée que j'ai essayé de faire la démonstration que dans un cheminement, l'outil intersectionnel était important pour comprendre ce qu'était notre société de travail, ce qu'étaient les évolutions, les mutations de notre société de travail, en prenant en compte des concepts qui me paraissent très pertinents, mais en les travaillant ensemble, en les envisageant, en les entremêlant ensemble, sinon on ne peut pas comprendre véritablement. Les notions de genre, évidemment, les notions d'ethnie, race, et les notions de classe. Enfin, moi, je parlerai plutôt de conditions économiques différentes, etc. Et voilà, donc en cela, l'intersectionnalité, l'intersectionnalité est un élément qui m'apparaît plutôt heuristique au niveau de mes recherches, en tout cas. Merci.
Je voulais juste prendre la parole avant deux petites choses, avant de donner la parole au public. Tout d'abord, merci beaucoup, parce que je pense qu'effectivement, même dans notre formation du master, les questions du monde du travail ne sont pas vraiment approfondies. Et donc, ça nous permet effectivement de comprendre certaines choses, comme tu dis, notamment la question des structures dans la définition des discriminations. Et merci beaucoup pour cette continuité en fait que tu établis entre les questions du monde du travail et de la migration, parce que très souvent ça reste un peu plus dans l'ombre. Après, il y a plusieurs questions, mais ça va venir, je pense, aussi de la part de la salle. Est-ce que c'est l'application d'un même modèle du monde du travail vers aussi le monde des migrations? Et surtout, avant de donner la parole quand même au public, je voulais que tu dises un mot un peu plus précis sur l'intersectionnalité, parce que je ne suis pas sûre que nous toutes et tous, nos étudiants, effectivement, soient au courant de cette tendance.
Je vais prendre d'autres questions
Si tu peux répondre d'abord à celle-là, et puis on continue sur l'intersectionnalité, je pense que c'est important.
Alors,
d'une manière plus générale.
Ouais, sans revenir à la genèse, au concept, etc. Mais quand même, c'est quand même une notion qui nous vient des États-Unis et qui est d'abord Kimberly Crenshaw qui va dans. Elle a un cas très précis, mais c'est un cas qui relève du droit. Elle a un cas très précis qui est de montrer que, en fait, le groupe de femmes qu'elle défend subissent une double discrimination. Elles sont à la fois femmes et à la fois noires. Et elle montre que le droit ne prend pas en compte cette possibilité d'une double discrimination. Pour pouvoir plaider et en faveur d'une des causes, il faut choisir. Les femmes doivent être soit femmes, soit noires. Vous voyez ce que ça pose comme problème. Et donc elle va développer cette idée d'intersectionnalité qui fait que si on sépare, si on traite simplement la question de la discrimination liée au genre ou simplement la discrimination liée à la couleur de la peau, on ne voit pas toutes les formes de discrimination qui sont en réalité vécues. On ne prend pas en compte tout le vécu, les ressentis, etc. On ne prend pas en compte toutes les dimensions des vécus réels. On ne prend pas en compte en réalité les discriminations réelles que subit cette population. Et ce concept, il va être relativement percutant. On peut juste se demander comment et pourquoi il apparaît si tardivement en réalité dans le monde académique, dans la recherche. Il est en train d'essayer de s'imposer, mais difficilement. Moi, je défends, dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches, je défends, par exemple, dans la sociologie du travail, là, je vous en parle, mais on n'est pas très nombreux, très nombreuses, à utiliser le concept d'intersectionnalité en sociologie du travail. Il y a vraiment ces catégorisations qui sont faites entre, finalement, des formes de discrimination qui n'ont pas à voir entre elles. Et l'idée de l'intersectionnalité, c'est bien de les penser ensemble. Alors, c'est complexe. C'est complexe. Ça demande de réfléchir à quelle méthodologie, à quel outil utiliser, etc. Et tout ça est en train de se construire par un certain nombre de chercheurs, notamment pas mal de chercheurs femmes, qui tentent de relire même certains travaux et sur la question des migrations, c'est un concept absolument opératoire. Et quand tu disais que la question du travail, je rebondis sur la première question, la question du travail, elle est peut-être un peu l'oubliée des migrations, c'est aussi dommage parce qu'en réalité, quand on regarde ce que je développe là, avec la diffusion des compétences, de la diversité, etc. Ce que je n'ai pas pu dire, ça me permet de le dire, c'est que quand on voit comment se traduit la promotion de la diversité dans le monde professionnel, c'est qu'on voit arriver des bastions ethnicisés. On va voir sur les métiers de la surveillance, des Noirs. Pourquoi ? Dans les métiers du Caire, des femmes issues de la migration. Pourquoi ? Vous voyez, on voit finalement cette promotion de la diversité, en réalité, elle produit une homogénéisation des populations en fonction de ces dimensions. Elle justifie encore à nouveau des ségrégations. Et dans les questions de migration internationale, si on n'a pas ça en tête, si on ne relie pas les migrations internationales à la question du travail, eh ben, il me semble qu'il manque un pan de compréhension parce que l'ouverture... On a quand même des pays qui mettent en place des accords bilatéraux pour permettre la mobilité, la migration de femmes. Exclusivement, vous voyez, on est sur des aspects discriminants de femmes pour venir cueillir les fraises au Maroc, par exemple. Des femmes marocaines, absolument, très souvent, pour venir cueillir. Et d'ailleurs, ces femmes, dans ces accords bilatéraux, moi, j'aime bien dire ça, parce que ces accords, c'est quand même des accords, donc c'est des États qui se mettent d'accord sur le fait qu'on va sélectionner. On est enfin en plein dans de la discrimination, mais vous voyez comment on la justifie. On va sélectionner des femmes mariées, avec des enfants, etc. Donc, pour être sûr qu'elles retournent au pays, etc. etc. Mais on est en plein dans des formes de discrimination qui sont justifiées quand même par la question du travail. Fondamentalement, c'est le travail, c'est des niches de travail, c'est qu'avons-nous besoin comme compétences, comme qualification, l'air de rien quand même, comme forme de travail, etc., dans ces migrations. Et tout ça va justifier des ouvertures de frontières ou pas, des fermetures, des mobilités autorisées, des circulations non autorisées, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais...
Vous avez parlé de la valorisation des compétences. Est-ce une définition à la Lobotère fois quelqu'un d'autre ? Parce que vous avez dit que c'était lié à accroître les savoir-être, alors que pour moi, la compétence, c'est un équilibre entre le savoir, les savoir-faire et les savoir-être, oui. Et non pas une valorisation des savoir-être. Et moi, je n'ai pas l'impression que dans l'égalité femmes-hommes, hein, ou bien dans le sujet de la diversité, c'est au contraire, c'est d'essayer de faire valoir l'équité. On a une discrimination positive et tout un système de discrimination positive en droit français pour les personnes, comme on a entre États aux Nations Unies ce qu'on a appelé l'inégalité compensatrice pour les pays en voie de développement, hein, c'est exactement la même notion, et on a ce moyen d'essayer de se rapprocher de l'équité. Moi, j'ai l'impression que pour vous, l'égalité, c'est l'uniformisation et non pas l'équité. Pour moi, l'égalité, c'est d'essayer par des dispositifs parfois discriminants, mais qu'on a de discrimination positive pour justement rééquilibrer les difficultés des quartiers sensibles, des talents en Seine-Saint-Denis dont vous avez parlé, où j'ai travaillé, hein. Et pour essayer de s'approcher de l'équité. Et je trouve que c'est quand même dommage que vous nous ayez cité quelques sociologues et pas quand même Françoise Héritier, qui est quand même celle qui est la plus connue, hein, comme sociologue, comme féministe, comme anthropologue, et qui permet, ou d'autres grands noms, plutôt que, ou bien la loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, plutôt que... Les propos de 2004 qui datent de la secrétaire d'État que tout le monde a oublié, y compris même les féministes.
Vous avez vous-même dit équité, et pour vous, l'égalité, c'est l'équité. C'est pas tout à fait mon point de vue. Hein. L'égalité, c'est pas de l'équité, justement. L'équité, ça s'apparenterait de la complémentarité. C'est ça qui me pose fondamentalement problème.
La discrimination positive, c'est pour aller de l'égalité vers l'équité, et non pas vers un système, et non pas vers un système d'uniformisation où on essayerait de nier les différences. Ce soit dans l'administration ou dans les entreprises, si on avait continué à travailler avec le sacro-saint diplôme et les compétences 20 ans ou 30 ans en arrière, quand on en a 50, les entreprises et l'ensemble des travailleurs, et y compris les fonctionnaires, puisqu'on a eu aussi dans la fonction publique la loi sur la modernisation de l'État avec la mise en œuvre des compétences, et ça n'a pas tué le collectif. Si dans les entretiens professionnels, vous donnez aux équipes des objectifs collectifs et non pas que des objectifs individuels à suivre, vous ne tuez pas le collectif. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse, madame.
Très bien. Enfin, dans ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'en réalité, les entretiens collectifs, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Ce qui se développe, hein, c'est des entretiens, justement, les entretiens annuels, qu'on va appeler entretiens annuels de progrès, etc., et qui fait qu'on retrouve essentiellement dans ces entretiens annuels de progrès le salarié ou la salariée face à son hiérarchique. Et dans cette relation contractualisée en face à face, pour le coup, c'est vraiment une manière d'évacuer, me semble-t-il, mais je ne suis pas toute seule à le penser, me semble-t-il, d'évacuer l'idée même d'une représentation syndicale. Hein. C'est ni plus ni moins, pour avoir travaillé avec des responsables d'entreprise, très clairement, c'était l'idée que ça permettait. Je reprends des mots d'un grand chef d'une entreprise. Mais justement, c'est vraiment l'idée de tuer les syndicats. Moi, on me l'a dit clairement, des chefs d'entreprise. Hein. L'idée, c'était que la logique compétence allait permettre de tuer les syndicats. Maintenant, si vous me dites que ce n'est pas le cas, je me demande pourquoi on parle de malaise syndical aujourd'hui, de représentativité, etc. Pour Françoise Héritier, j'ai la plus grande admiration pour Françoise Héritier, la valence différentielle des sexes. Et il me semble qu'elle ne serait pas très étonnée de ce que je raconte par rapport à ce qu'elle a travaillé. Enfin voilà, j'espère aller plutôt dans son sens. Si c'est pas le cas, je suis vraiment je me suis mal expliquée. Alors merci.
Bonsoir. Moi, j'ai pas trop posé une question sur le monde du travail, tout simplement parce que je le connais pas très bien. Mais par rapport à l'intersectionnalité, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du pire, alors le parti des indigènes de la République, si vous avez un avis.
Non, je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Très franchement, non, je vous dirai pas ce que j'en pense parce que je. Mais dans quel sens
Est-ce que vous considérez leur rhétorique comme plus intéressante
Dans ce sens-là, d'accord. Désolée. Leur rhétorique, elle m'apparaît intéressante parce qu'elle intervient justement dans tout le contexte que je viens de développer. Elle introduit justement un prisme d'analyse qui n'est pas complètement autorisé, qui ramène effectivement la question de la race, d'ailleurs plus que le genre, sur un registre de compréhension de ce que sont les rapports de domination, les rapports, la question du racisme, etc. Et en soi, ça m'apparaît être une posture intéressante parce qu'elle est provocatrice et elle a amené un certain nombre de chercheurs notamment, mais de politiques, etc., à se positionner, à adopter un certain nombre de points de vue, etc., par rapport à ce positionnement assez provocant. Voilà. Je dirais, pour le dire plus simplement, c'est que ça a permis des espaces, c'est d'un point de vue sociologique que ça m'intéresse, des espaces de tensions, de conflits, etc., qui ont mis en évidence qu'on était véritablement dans une période où cette question d'intersectionnalité, elle ne fait pas consensus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, moi, j'ai deux préoccupations majeures. La première, c'est à la suite de votre, dans la première partie de votre intervention, vous avez expliqué le passage de, entre la notion de qualification et la notion de compétence. Alors, j'aimerais donc savoir si déjà la notion de compétence est dissociable de la notion de qualification. Si tel était le cas, à quoi sert alors les formations de base dans l'enseignement de façon générale? Alors, ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la notion du toquetisme. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, vous avez expliqué comme ça que le passage de certains toquets de la classe inférieure, si je peux m'exprimer ainsi, vers la classe supérieure. Et à la suite de ce passage, on a un certain discours négatif, en quelque sorte, envers la classe inférieure ou à la classe à laquelle ces personnes ont appartenu. Alors, en tant que sociologue, j'aimerais donc comprendre comment vous pouvez expliquer cela, ce discours, ce rejet. Merci.
Merci. Sur la première question, est-ce que vous pouvez me la redonner? Je suis désolée. C'est pour être sûr de bien vous répondre.
Oui, bon. La première question, c'était à la suite de vos explications entre le par rapport au passage de la notion de qualification vers la notion de compétence.
Vous avez tout à fait raison. C'est un peu la dimension caricaturale d'une présentation qui doit se faire en trois quarts d'heure. Mais vous avez bien raison. J'ai parlé d'un glissement comme si on était passé du modèle de la qualification et qu'on est strictement aujourd'hui sur le modèle de la compétence. Non, évidemment. On a évidemment ces deux modèles qui se côtoient. Qui existent, qui préexistent encore dans certaines administrations à la limite encore que dans les entreprises où on a vraiment des entreprises, par exemple je pense à IBM, où on est quasiment passé à véritablement un système de compétences avec un recrutement sur le diplôme, mais très vite sur une évaluation à partir de ces compétences. On demande même aux salariés d'IBM de évaluer eux-mêmes leurs compétences. Je ne sais pas si vous voyez, on en vient sur l'aspect psychologisant. Hein. Ils font eux-mêmes leur entretien. Et ils doivent remplir un document pour dire s'ils sont compétents ou pas et qu'est-ce qu'ils doivent travailler comme compétence pour devenir complètement compétents. Vous voyez, je ne sais pas si... Donc oui, vous avez complètement raison, on a ces deux modèles. Sur la deuxième question, comment expliquer que les tokens... c'est parce qu'ils sont d'une certaine manière, me semble-t-il, contraints, ils et elles sont contraints de d'user de ces arguments pour pouvoir occuper les places. Il y a une forme d'échange, il y a une forme de marchandage et surtout pour ça devient un élément de valorisation d'une certaine manière pour eux que de dire moi, si je suis là, c'est pas parce que je suis pauvre, noir ou arabe, etc. C'est parce que, en fait, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé, j'ai mérité, etc. Et que les autres, s'ils y sont pas, c'est parce qu'ils l'ont pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une façon de pouvoir expliquer sa position sans tomber dans un travers qui est, d'un point de vue plus personnel, assez problématique.
Oui, je n'ai pas fait d'études de sociologie, je voudrais bien m'excuser, je vais employer des mots simples. J'aime bien votre histoire d'intersectionnalité parce que ça me fait penser à, il y a très longtemps, on parlait, on fait des amalgames.
Oui.
Parce qu'on ne supportait pas que les choses fonctionnent ensemble dans leur complexité. C'est une première chose. Deuxième chose, je voulais dire, ça m'a ramené à un temps où Angela Davis... La pauvre était à la fois noire, femme et évidemment communiste. Donc là, pour les gens de ma génération, c'était pour certains, c'était la totale, c'est-à-dire qu'elle représentait la transgression la plus forte. Et puis enfin, je voudrais revenir sur cette histoire de qualification et de compétences pour aider actuellement un jeune Afghan qui a 2 ans en France et qui essaie de travailler, de trouver, qui a des compétences, on lui demande des qualifications. Ah. Voilà. Donc, pour avoir un stage de qualification, Eh ben, c'est bizarre, il faut des compétences, c'est-à-dire que des compétences linguistiques, évidemment, ça c'est la base parce que là c'est quand même nécessaire, mais d'autres, c'est-à-dire que ben, il doit pouvoir se déplacer facilement, il doit avoir des cautions comme pour assurer un peu de, comment dire, de sûreté de ce qu'il fait, etc. Donc, voyez, cette histoire de qualification, je pense qu'on demande d'abord des qualifications et on surajoute, on rajoute des compétences pour discriminer en supplément.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez donné des définitions de ce qu'est la compétence. Hein. Et vous voyez bien que très souvent, ça part de rapport avec l'exercice du travail. Hein, être mobile, être relativement assuré financièrement, parler le français. Quand on travaille dans le bâtiment, par exemple, hein, puisqu'il y a toute une histoire derrière cet exemple, on voit bien que ça pose relativement problème. Ce que j'ai pas pu développer sur c'est vrai que la qualification, le monde de qualification existe encore. Je veux juste rappeler que quand même. On est dans un contexte de chômage massif, de possibilité finalement aujourd'hui de recruter des personnes sur des emplois avec une très forte demande. En fait, on peut sélectionner, on peut discriminer. Et effectivement, les compétences vont se rajouter à une qualification, mais c'est ces compétences-là qui deviennent plus importante parce qu'on a en réalité on a un nombre très conséquent de personnes qui possèdent les qualifications qui sont attendues et on va les discriminer, on va les sélectionner en fonction de compétences qui n'ont rien à voir avec le travail qu'on leur demande. Et voilà. Merci.
Peut-être une dernière question courte, si possible.
Oui, je voulais revenir par contre sur la notion de complémentarité dans l'entreprise par rapport à l'égalité. Je voulais savoir si derrière cette complémentarité, on excluait l'égalité, je parle au niveau de la reconnaissance pécuniaire. Parce que est-ce que c'est un moyen aussi d'éviter la reconnaissance pécuniaire à travail égal, salaire égal ?
Oui, oui, absolument. Et ça, c'est un pan de travail qu'on a fait avec Irène Jonas, et puis par la suite avec Rachel Silvera, justement à partir des compétences, qui est que il y a le biais effectivement que si on n'est pas simplement sur la qualification, si on passe sur les aspects strictement de compétences spécifiques, etc. Et c'est ce que j'ai rapidement dit aussi, c'est si j'ai bien compris votre question, hein, c'est qu'on en vient à l'idée qu'on peut individualiser les salaires. Ça paraît là encore intéressant, mais en réalité, ça permet si on individualise les salaires en fonction de ses compétences, etc., comment on va pouvoir, à un moment donné, dire il y a une inégalité salariale. Vous voyez ? C'est pour ça que je parle de la question de l'égalité, l'équité, elle est complètement, pour moi en tout cas, et d'après mes recherches, elle n'est pas d'actualité, ne l'est pas. Merci.
Très bien, merci beaucoup Jawida Sehili, Adelina Miranda pour cette soirée. Et je vous annonce celle à venir donc dans le cadre de Migre Inter, la prochaine est le jeudi 18 janvier, donc toujours même heure, 18h30, et c'est sur les discriminations ethno-raciales en France, construction conceptuelle et éclairage à partir de l'enquête trajectoire et origine, avec Patrick Simon, qui est directeur de recherche à l'INED à Paris. Merci, bonne soirée.
Merci. Juste une dernière chose, les étudiants.